suis Boris Nepveu, dirigeant du cabinet Reconnexion. Aujourd'hui, je vous invite à découvrir un passionné de management qui va nous partager ses convictions, ses secrets, son histoire. Bonjour Vincent Bourdin.
Bonjour Boris.
Comment ça va ?
Ça va bien, merci.
Bon, eh ben, je suis ravi que tu aies répondu positivement à cette invitation et je rentre directement dans le vif du sujet. Moi qui te connais maintenant un petit peu, j'ai hâte que ceux qui nous écoutent sachent qui tu es, ce que tu as fait, ta vie, ton œuvre, ton parcours, avant de rentrer spécifiquement dans les sujets de management. Allez, parle-nous de toi.
Ça marche. Alors, ce n'est pas une habitude que j'ai, donc je vais faire court, mais je vais le faire quand même parce qu'il est important de se présenter. Donc, merci aussi à toi de m'avoir invité. Donc, moi, je suis déjà, pour commencer par les sujets extra-professionnels, photographe et bassiste amateur dans les deux sujets. Ça me permet, à titre personnel, de développer ma créativité. J'ai grandi dans le sport aussi. J'en faisais jusqu'à 6 ou 7 heures par semaine. Donc, aujourd'hui, je peux moins en faire, mais le peu que je peux faire, c'est de la course à pied. Et j'en ai absolument besoin. Ça m'aide pour nourrir le dépassement de moi ou tout simplement pour pouvoir canaliser certaines énergies. Et puis, je suis quelqu'un qui adore partager du temps avec ses amis, ses potes, sa famille. Et donc, j'adore cuisiner. Et mes origines bordelaises font que j'adore le vin. Et j'ai découvert le whisky et le rhum. Donc, tout ça, bien entendu, à consommer avec modération. Mais dès que je peux le partager avec des amis, c'est parfait. Voilà. Et puis, sur le plan professionnel, je suis plus particulièrement nommé ou qualifié par les gens qui me connaissent de développeur. Je pense que mes 23 ans de management et mes 8 ans en formation en sont la preuve. En fait, moi,
pas un développeur web. Non, t'es pas dans le web.
Non, je suis pas développeur dans le web. Je suis développeur de personnes. Voilà, ce qui m'intéresse et ce qui me passionne, c'est l'autre. Donc, j'aime bien aller chercher les capacités des gens, les dons des gens. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai appelé mon entreprise EasyFo Academy, en fait, parce que EasyFo en Zoulou, ça veut dire celui qui a un don, celui qui est doté de quelque chose, et ça veut aussi dire le don. Voilà, donc j'avais trouvé cette idée-là pour la petite anecdote dans un Marvel. Et puis, voilà, donc j'aime développer, j'adore développer les autres, et parmi, ce développement, quand j'ai été un professionnel, j'ai eu l'occasion de me frotter au leadership, un sujet qui me passionne et qui fait qu'aujourd'hui, je suis plutôt convaincu qu'il vaut mieux parler. Alors, ça me passionne parce que, justement, c'est typiquement un point qui est orienté vers l'autre et qui fait que pour moi ça fonctionne quand on est orienté vers l'autre et ouais. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai plutôt tendance à dire qu'aujourd'hui il vaut mieux parler de leadership que de management et comme je le dis de manière assez radicale et souvent j'ai tendance à dire pour moi le management est mort et il faut arrêter d'en parler.
Pardon, j'ai pas entendu ce que
je dis le management est mort et j'ai tendance à dire il faut arrêter d'en parler.
Nous voilà au summum de la provocation. Donc le gars, on l'invite. Le podcast s'appelle Histoire de management et lui, il arrive, il met les pieds dans le plat, il dit le management est mort. Donc tu vas pas t'en tirer comme ça. C'est-à-dire.
Alors, il y a un peu de provoque et tu as raison, mais on va le voir. Alors, j'ai pour habitude de me renseigner un petit peu parce que quand j'ai des croyances comme ça, je veux pas que ce soit avec des croyances. Alors, je lis pas mal. Donc là, j'ai deux études, une de 2017 et une de 2019 qui montrent deux choses. Donc, il y en a une, c'est une étude d'OpinionWise qui a été faite en 2017 et une autre du Boston Consulting Group en 2019. Alors, celle d'OpinionWise, elle montre par exemple que 62% des personnes qui ne sont pas managers, donc collaborateurs, ouais, employés, ne sont pas managers, en fait, ils ne veulent pas devenir managers s'ils en ont la possibilité. Et un chiffre un peu complémentaire à ça, parce que bon, on se dit ça, bon, ok, les deux tiers des gens veulent pas l'être, mais sauf qu'il n'y a que 11% des gens interrogés qui voudraient l'être. Donc, déjà, ça, s'il y a une tendance, ça veut dire qu'il y a un désamour de cette fonction.
Et cette tendance. 62 et 11, pardon, et les autres, ils s'en foutent totalement, c'est quoi le...
Ouais, ils se prononcent pas, ou peut-être qu'ils y sont pas, j'ai pas l'élément dans l'étude, mais il y a ce point-là qui est mis en avant, et cette tendance, elle est plutôt confirmée dans l'étude qui a été faite en 2019 par le BCG, qui dit 9% seulement des personnes qui ne sont pas encore managers aspirent à devenir managers. Et surtout, alors le Boston Consulting Group, ils se sont intéressés à une autre question que j'ai trouvé intéressante, c'était de questionner les personnes en poste de manager et leur dire, ok, dans 5 ou 10 ans, où est-ce que vous voyez ? Et il y a 37% des personnes qui répondent, je ne me vois pas manager. Donc concrètement, on a un tout petit peu plus d'un tiers des managers en 2019 qui disaient, bah, moi, dans 5 à 10 ans, je sais que je ne serai plus dans cette fonction. Donc là aussi, il y a une vraie problématique. Et en fait, ces deux études, elles montrent qu'il y a quand même un problème. Voilà. Donc, comme je te le disais, pour moi, il y a un désamour de la fonction. Et encore une fois, je suis un peu radical, mais je pense que c'est parce qu'il faut changer les choses. La fonction de manager et le management qui vont avec, pour moi, ils ont dû faire leur temps. Alors, j'avais découvert une frise que je trouve géniale, qui montrait en fait les grandes évolutions du management depuis la fin du 19e. Et en fait, quand on regarde cette frise, alors j'en cite des grandes parce que ça va parler aux gens, et surtout ça va leur permettre de se projeter. C'est voilà, on parle de management scientifique au moment du taylorisme, il y a eu le management de l'organisation aussi, il y a eu le management par objectif, le management par la qualité. Dans les années 80, on est plutôt arrivé sur les logiques de leadership et l'excellence. Et puis depuis 85, 90, donc on pourrait dire, bah là tout ça c'est apparu, vous voyez, tous les 15, 20 ans, 30 ans, il y a une nouveauté. Et là, ça fait 30 ans qu'on n'a rien. Ça fait 30 ans qu'il n'y a pas de mouvement sur ce sujet, et on ne se pose pas la question de dire bah, c'est par où on prend le management aujourd'hui, quoi. C'est quoi le truc, par où on l'attrape pour le faire évoluer, pour faire quelque chose de nouveau. Et donc moi, c'est ça qui me perturbe un petit peu. Alors, est-ce que c'est l'ère du management de l'intelligence émotionnelle et ou situationnelle, parce qu'on parle aussi beaucoup de ça. Moi, plus simplement, j'ai envie de dire, bah, je pense que c'est l'ère du management du capital humain. Et donc, on arrive plutôt sur une vraie logique de leadership qui se centrerait vraiment sur les collaborateurs. Voilà. Alors, je dis ça comme ça, je pose aussi la question à ceux qui nous écoutent, mais est-ce que ça ne serait pas le moment de vraiment parler de leadership et de se centrer sur les collaborateurs quand on parle de capital humain. Voilà.
Quand tu dis il n'y a rien depuis 30 ans, est-ce que le glissement favorable, si tant est que ce puisse en être un, entre le manager et le manager coach, est-ce que ça déjà c'est pas une posture plus intéressante, quelque chose qui a fait évoluer aussi les mentalités? Et puis finalement, quand tu dis bon, le management est mort et c'est peut-être tout simplement des histoires de sémantique.
Oui, tu as raison. Là où moi, j'ai voulu attirer l'attention avec les premières statistiques sur les premières études, c'est que, et j'aurais une toute petite anecdote pour ça, c'est que la fonction n'attire pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le management, si on reprend justement cette frise, en fait, on utilise le terme de management depuis le début du XXe siècle. Donc voilà, ça fait 100 ans qu'on utilise ce terme-là.
C'est un fou, quoi.
Et alors voilà, est-ce qu'on n'est pas arrivé au bout de quelque chose? Et une anecdote simple, mais récemment j'étais dans un magasin de distribution et j'entendais le dialogue de collaborateurs qui s'apprêtaient à avoir leurs entretiens individuels et la remarque de l'un d'eux était de dire « mais pourquoi tu veux que j'aille prendre une fonction ?» et que je prenne plus de responsabilités, déjà un, pour la différence de salaire qu'on va m'offrir, et surtout pour tout ce que ça va m'amener comme contrainte, c'est pas l'expression, mais comme emmerdement supplémentaire. Voilà. Et donc, cette personne-là avait une vision, une projection de la fonction qui l'attendait, qui était vraiment super négative. Alors que bah, c'est un beau métier, quand on a la possibilité de vraiment l'embrasser et s'impliquer dedans, et quand on a aussi la possibilité d'être accompagné. Juste bien quelques sûr. Statistiques complémentaires là, pour justement traduire encore ça, mais là, du côté manager, dans l'étude du Boston Consulting Group, il y a 80% des managers interrogés qui indiquent que leur métier est plus difficile qu'avant. Juste pour petite info, c'est 85% en France. Il y a 71% des managers qui disent qu'ils ont pris une charge de travail plus importante. En France, c'est 78%.
Ouais, enfin, en même temps, Vincent, toi et moi qui avons œuvré dans des univers communs pour une bonne partie. Moi, quand j'entends des managers dire, et quand j'entends encore aujourd'hui des managers dire « en ce moment, c'est difficile », et que je leur demande de me rappeler quand est-ce que c'était la dernière fois que c'était facile, ils ne s'en rappellent pas. Donc, voilà, c'est quand est-ce que c'était la dernière fois que c'était easy le job, si je puis dire, de manager des équipes.
Alors, c'est pas vraiment de manager les équipes qui, pour moi, peut poser une difficulté. Par rapport à ta question, et effectivement, pour avoir eu l'occasion comme toi de côtoyer cet univers, ce qui était intéressant, c'était finalement, à l'époque, on nous demandait de nous concentrer sur certains sujets. il y avait la performance. On nous demandait aussi, moi j'ai vécu cette évolution vers la logique de qualité de service, et on nous demandait vraiment de commencer à nous enquérir plus régulièrement de ce que pensait le client. Donc il y a eu le début des enquêtes qualité. On a eu toutes ces choses-là. Aujourd'hui, le manager, il est au milieu de trois choses qui sont fondamentales. C'est l'entreprise qui lui demande des résultats. C'est les clients qui sont de plus en plus exigeants et qui attendent de plus en plus d'excellence. Et c'est normal, c'est ce qui nous permet de faire la différence.
Informés.
Exactement, et qui sont en plus de mieux en mieux informés, pour ne pas dire formés sur certains sujets. Et puis, on a aussi aujourd'hui les collaborateurs qui attendent qu'on les aide à évoluer dans cet univers où ils sont pris eux aussi. Et donc, le manager, de manière assez naturelle, il est plus stressé. Il est de plus en plus sollicité, et on le voit. Alors là, j'ai pas retrouvé forcément de chiffres avant de venir à ton podcast, et je m'en excuse, mais on le voit, on l'entend aujourd'hui dans la sortie de cette période de crise sanitaire. On voit les gens qui sont en train de se détacher de ces fonctions aux États-Unis. Ils appellent ça le grand départ ou un truc comme ça. Mais il y a des gens qui sont en train d'abandonner leur poste, le big quit. Mm-hmm. Et ils sont en train d'abandonner leur poste. Et pourquoi ? Parce que cette période où ils se sont retrouvés un peu centrés sur eux-mêmes les a amenés à se poser des questions. Et moi, ce que je trouve dommage...
Pas que les managers,
les employés aussi, mais il y a des managers parmi ça. Et ce que je trouve dommage, c'est qu'on a certainement dans ces populations-là des gens qui sont tout à fait capables si on les accompagne. Et c'est ça que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, il faut... Selon moi, ça c'est mon point de vue, mais il faut faire évoluer cette vision du leadership. Il faut être plus clair sur ce qu'on attend des managers et du coup les accompagner sur cette logique.
Mais tu mets le doigt sur un élément intéressant, mais être capable et vouloir, t'avoueras qu'il y a quand même il y a un monde entre les deux. C'est même pas le même sujet. Et au-delà de ça, ça paraît tellement évident comme ça à entendre qu'on se dit, les chefs d'entreprise, les dirigeants qui ont entre leurs mains toute cette population extraordinaire de managers, pourquoi ils ne s'accaparent pas différemment du sujet pour faire en sorte que, moi, ce que j'appelle l'ascenseur social fonctionne à plein et qu'on continue à sécuriser nos affaires, sécuriser le business des entreprises parce qu'en effet, on va avoir cette espèce de conjugaison entre ceux qui peuvent et ceux qui veulent, quoi. Donc, que font les entreprises ?
Que font les entreprises ? C'est une bonne question. Moi, je pense qu'aujourd'hui, elles cherchent des solutions. Il y a énormément d'entreprises, là, et surtout en sortie de Covid, qui cherchent des idées, qui questionnent. Alors, j'ai la chance d'intervenir dans le monde de la formation aussi, et donc... on voit bien, ils sont en quête de nouvelles façons de faire, de nouvelles choses. Et alors, c'est pas nouveau, c'est-à-dire que la crise n'a pas amené ça. Si on reprend les 5-10 dernières années, quand on regarde les tendances managériales, et je mets des guillemets à ce terme-là, mais quand on regarde... encore une fois, je pense aujourd'hui, on a maltraité ce terme, mais c'est pas grave. Moi, j'ai été manager pendant des années, et aujourd'hui, j'en voudrais à personne de continuer à appeler des gens qui sont en charge d'une équipe manager, mais je pense qu'en revanche, derrière le terme de manager, il faut vraiment dire ce qu'on veut faire. Et pour répondre à ta question, toutes ces choses qu'on a lues, qui sont controversées, avec des opinions où il n'y a rien encore de scientifiquement prouvé sur le bonheur au travail, le chief happiness officer, toutes ces choses-là, toutes les tendances qui sont aussi données sur faites ceci, pas cela, appliquez ceci, pas cela, l'équilibre, tout le questionnement qu'on retrouve aussi autour de l'équilibre entre le sens du travail, l'équilibre avec entre ma vie pro et ma vie perso, pardon. Toutes ces choses-là, il y a un vrai questionnement depuis des années, et donc on voit bien que tout le monde tâtonne, que ça soit les chefs d'entreprise, les personnes qui s'intéressent à ce sujet comme nous, les collaborateurs eux-mêmes, qu'ils soient managers ou employés, plein de gens cherchent quelque chose. Alors, moi, j'ai pas la prétention de dire que j'arrive avec la solution, mais je propose quelque chose, c'est de dire, regardons ces personnes-là à qui on confie les clés, et ça, c'est un conseil que je donnerai aux dirigeants, regardons ces personnes-là différemment et orientons-les vers quelque chose. Moi, aujourd'hui, ma croyance, c'est que ces personnes-là, le vrai rôle qu'on attend d'eux, et il faut juste rappeler que dans toujours dans cette étude du Boston Consulting Group, il y a 63% des managers qui disent « Est-ce qu'on pourrait juste nous définir clairement notre rôle ? » C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on attend de nous ?
Qu'est-ce qu'on attend de nous, ouais.
C'est hyper important, c'est-à-dire qu'il y a quand même deux personnes sur trois qui disent « Mais qu'est-ce qu'en fait la direction attend concrètement de nous, clairement de nous ?» Et donc là, et moi c'est quelque chose que j'ai eu l'occasion aussi d'appliquer dans ma vie professionnelle, quand j'avais par exemple des adjoints ou des managers qui travaillaient pour moi ou avec moi, très concrètement, l'idée c'était de dire « Moi je veux que tu sois le leader de ton activité, c'est-à-dire qu'il y a une activité, tu dois faire quelque chose, et puis ton équipe, il faut s'en occuper, c'est-à-dire que toi tu dois les accompagner. » Et moi aujourd'hui, si j'avais un conseil à donner aux dirigeants, ça serait demandez-leur d'être à la fois des leaders et des accompagnateurs. Moi j'ai résumé ça dans un terme qui est une marque aujourd'hui, mais qui s'appelle le LIDAC, et c'est le nom que je lui donne pour remplacer la logique de manager. Et si derrière on commence à dire aux gens, voilà, on attend de toi que tu sois un leader et un accompagnateur, avec la notion de leader, tu vas être amené à donner du sens à ton équipe, tu vas être amené à travailler des stratégies, mais aussi à travailler de l'opérationnel, surtout quand on est un leader de proximité, comme tu l'évoquais tout à l'heure. Et puis dans un rôle d'accompagnement, quand on est accompagnateur, on va faire ce qu'attendent les collaborateurs aujourd'hui. C'est-à-dire que dans ces mêmes études, il y a des collaborateurs qui disent nous, on aimerait bien que notre leader... il nous accompagne, il soit là pour nous guider, il soit là. Donc on a ce rôle-là. C'est vraiment les tendances qui sont attendues aujourd'hui.
Ouais. Alors, avant que tu nous en dises plus sur ta vision, toi, du leadership, moi, si j'étais un peu provoque à mon tour, j'ai le droit, hein, c'est mon podcast, mince, à la fin. Je me dis, moi, ce qui me dérange un peu avec le terme de leader, tu vois, c'est le fait que certains font un raccourci et voient dans le terme de leader le côté gourou, quoi. Alors que pour moi, c'est tout sauf ça. C'est tout sauf celui qui va imposer ses idées, puisque justement, cette notion, elle a terriblement évolué, et plutôt dans le sens positif, et tu l'incarnes et tu l'expliques très bien. Mais comment déjà s'y prendre pour éviter de confondre un leader et un gourou, quoi ? Parce que c'est peut-être aussi pour ça, finalement, que certains ne s'y reconnaissent pas, et en laissant... le terme de manager et le terme de leader cohabiter, c'est de dire oh là là, mais moi en fait, j'ai pas envie d'être un tribun, j'ai pas envie de monter sur le tonneau et d'haranguer les foules, et puis j'ai surtout pas envie d'y laisser ma chemise, puisque en fait, moi j'ai du temps à passer à la maison. J'ai interviewé il y a 2-3 jours un jeune entrepreneur. Alors quand je dis jeune, il avait 35 ans, mais un mec plein d'avenir, plein de talent et qui monte une entreprise dans le web. Et je lui dis, mais alors, Rémi, il s'appelle Rémi, je lui dis, comment tu te vois dans 5 ou 10 ans ? Et le gars, quand tu parles avec lui, tu sens qu'il est dynamique, visionnaire, il est ambitieux, il a plein d'idées, il est agile. Et il me dit, dans 5 ou 10 ans, je me vois m'occuper de mes enfants et bosser 3 jours par semaine. C'est extraordinaire, c'est intéressant. Donc bref, il y a plusieurs questions en une, mais finalement, comment essayer de nettoyer l'image du leader et arrêter de laisser penser qu'un leader, c'est un gourou, quoi. Alors je t'ai un peu tout mis en bras que Vincent, mais débrouille-toi avec ça.
Allez, je me débrouille, et alors c'est intéressant parce que j'avais prévu d'en parler plus tard, donc je vais t'en parler maintenant. Il y a une vidéo, moi, que j'ai découvert il y a 5 ou 6 ans, que j'ai trouvé géniale, qui s'appelle The Lollipop Moment, donc le moment de la sucrerie, de la sucette en français. Ouais. Et c'est un gars qui raconte comment il a pu influencer l'avenir de quelqu'un en distribuant des sucettes à l'université. Et en fait, ce que j'ai trouvé très intéressant, je vous laisserai regarder, c'est un TEDx. Vous la trouverez facilement sur TEDx et sur d'autres plateformes de vidéos. Et en fait, cette vidéo est très inspirante parce que la leçon de cette vidéo, c'est ce que lui veut vraiment mettre en avant, c'est que tout le monde peut être le leader de quelqu'un. Et donc, derrière la notion de leader, c'est comment je peux, à un moment donné, être inspirant pour quelqu'un. Prenons un exemple qu'on attend peu, mais que je prends régulièrement. Moi, je trouve génial qu'à un moment donné, on se sente touché et inspiré, et qu'on a envie de se dire, moi aussi, je voudrais faire ça par des enfants qui peuvent avoir des fois 7, 8, 9 ans, 10 ans, qui n'ont que la naïveté de leur âge et qui n'envisagent pas, il n'y a pas de plan de carrière derrière, ils font quelque chose, ils montrent un exemple, ils font un truc, et en faisant ça, En fait, rien que ça, en ayant déjà cette dimension où je vais te montrer ce en quoi je crois et comment on peut le faire et vers quoi je pense qu'il faut aller, ben rien qu'en ayant ce comportement-là, je deviens un leader. Alors, c'est bancal ce que je te dis parce que du coup, juste après, pardon, sur la notion de gourou, ce que je vais vous dire va être bancal parce que moi, quelque part, je vais prôner mon truc. Un gourou, pour moi, il va fatalement prôner des choses. En revanche, peut-être le reproche qu'on va faire au gourou, et c'est souvent comme ça qu'il est caricaturé, alors moi je suis un fan de cinéma ou de film, mais de séries, excusez-moi, mais donc un gourou dans les films ou les séries, dès qu'il s'agit de passer à l'action ou dès qu'il s'agit d'aller un petit peu plus loin, en général il s'arrête, quoi. Il y a cette caricature, c'est-à-dire que c'est pas un homme d'action, c'est pas quelque chose. Et quand je dis ça, ça veut pas dire qu'il peut pas le faire, mais c'est comme ça qu'on va peut-être des fois un petit peu l'identifier. Et justement, pour moi, la différence entre le leader et ce que tu peux qualifier de gourou, c'est-à-dire quelqu'un qui va faire des grands prêches et qui va dire « suivez-moi », mais sans forcément que lui fasse certaines choses, bah, c'est que le leader, on va le voir faire, on va le voir agir. Il va incarner les messages et il va incarner les éléments qu'il prône. Si ça n'est pas fait, on retombe dans des tendances qu'on a pu connaître tous les deux à certaines époques. C'est faites ce que je dis et pas ce que je fais. Et à partir du moment où, de toute façon, on tombe dans cette logique-là, on ne devient plus un leader parce que je bascule un message, mais malheureusement, je ne montre pas l'exemple. Alors, j'aime pas polémiquer, mais juste pour reprendre, voilà, en ce moment, on parle beaucoup d'environnement. Effectivement. À partir du moment où on prône des décisions, où on prône des demandes sur l'environnement, il faut que toutes les personnes qui prônent ces choses-là, soit aussi exemplaires sur le sujet. Sinon, toutes les autres personnes à qui on va leur demander de faire un effort vont regarder et dire « mais pourquoi tu veux que je te suive ? Toi-même, tu ne le fais pas. » Donc pour moi, la différence entre leader et gourou, c'est vraiment ça, c'est que le leader va incarner toutes les idées qu'il veut porter et c'est grâce aussi à ça que justement, il va être reconnu comme un leader.
Les incarner, les montrer, les démontrer et les pratiquer. Alors je voudrais donc t'amener à ta vision du leadership, même si on en a déjà une idée assez importante et que le temps passe. Tu m'as parlé de trois dimensions de leadership. Tu en as parlé un petit peu d'une rapidement. Est-ce que tu peux revenir dessus? Parce que je trouve que c'est très intéressant et c'est assez apprenant sur à la fois ta vision des choses et en même temps ça donne un bon guide, un bon fil conducteur dans une manière de gérer, d'accompagner, de coacher les équipes tout en étant bienveillant, efficace, respectueux, etc. etc. Donc, ces trois dimensions de leadership, tu nous en parles ?
Oui, alors je viens de vous donner quelques exemples sur la dernière. Donc, pour moi, une des dimensions, j'ai pas d'équilibre. Les trois sont importantes et il faut qu'elles soient congruentes. Donc la dernière, c'est celle qu'on vient d'évoquer, c'est l'inspiration. C'est-à-dire qu'il faut que le leader ait vraiment une dimension d'inspiration. Et les questions que je pose aux gens, c'est d'après vous, quel impact sur vos équipes peut avoir le fait d'être inspirant et puis surtout, je vais plus loin, comme je considère que tout le monde peut être le leader de quelqu'un. La question aussi qu'on pourrait poser, c'est quel impact sur votre business ça pourrait avoir si vos collaborateurs cherchaient eux-mêmes à inspirer les clients, c'est-à-dire s'ils devenaient les leaders de leurs clients, en fait. C'est de dire, j'ai une relation avec un client, mais je vais essayer de l'inspirer, je vais essayer de lui passer quelque chose. Qu'est-ce que ça pourrait amener en business? Et je peux vous assurer, pour l'avoir vécu dans deux grandes enseignes, que ça a du bonus, quoi. Ça a du potentiel. Les deux autres dimensions, il y en a une qui est celle de visionnaire. Et donc être visionnaire, alors il ne faut pas là non plus partir dans des choses trop abstraites. Il y a, pour moi, dans la vision, il y a deux choses. Il y a la vision long terme et la vision court terme, donc très opérationnelle. Donc la vision long terme, c'est effectivement ces personnes qui vont avoir, comme tu le disais tout à l'heure avec ton exemple de Rémi, qui a une idée, qui va la développer, qui voit le business plan, et puis lui, il le voit à 5-10 ans, il voit où est-ce qu'il va. Donc ça, c'est cette vision long terme qu'on est capable d'avoir. Et aujourd'hui, même un manager, donc un leader de proximité, va devoir être capable de poster une vision de son équipe à 2-3 ans. Et puis, il va devoir aussi avoir cette vision très opérationnelle de dire, bah, cette stratégie que je viens de définir, comment je la caractérise. Donc là, c'est plus vis-à-vis justement des dirigeants et aussi des leaders, mais ça, le passé managérial nous l'a démontré. C'est important d'avoir une vision claire, c'est important de savoir où on va et où est-ce qu'on veut amener nos équipes. C'est justement la dernière tendance liée au leadership et à l'excellence. On a vraiment travaillé ça dans cette dimension-là, et ça, moi, j'y crois. On retrouve ça beaucoup dans les littératures avec du Blanchard, du Miller, voilà, du Johnson. Ce sont des gens qui ont beaucoup travaillé autour de ça. Et il y a un vrai bénéfice à travailler la vision à la fois court terme et long terme. Et puis, la troisième dimension, elle commence à être poussée un petit peu plus. Alors, je vais l'illustrer avec quelqu'un parce que moi,
c'est visionnaire. C'est
inspirant, visionnaire. Ouais. Et la troisième dimension, c'est servant, donc au service d'eux. Et moi, j'ai découvert le monsieur qui est à l'origine de ce principe, c'est Robert K. Greenleaf. Il a écrit ça dans les années 70, hein, donc juste pour info, ça a 50 ans, cette idée.
Ah bah c'est moderne ça, dis donc.
Ouais, c'est complètement moderne, mais ça n'a pas été repris à l'époque. Et en fait, l'idée aujourd'hui, c'est pour la caractériser, pour que ça puisse aussi donner une projection à ceux qui nous écoutent. Alors, pour les personnes qui ont vu la série New Amsterdam, il y a un médecin qui s'appelle Max Godwin dans cette série. Il a été inspiré, en fait, d'un monsieur qui existe vraiment, un docteur qui s'appelle Eric Mannheimer, qui a écrit un livre qui s'appelle 12 Patients, et en fait, qui racontait son histoire de comment il avait bousculé les habitudes dans les hôpitaux, et en l'occurrence, un hôpital new-yorkais. Et sa question favorite, c'était « Comment je peux vous aider ?»« How can I help ?» Et en faisant ça, il se mettait immédiatement dans une posture de « Je suis à votre service ». Ça ne veut pas dire qu'il va faire les choses à la place de l'autre. Hein. C'est pas ça qu'on est en train de dire.
C'est là que j'allais essayer de te coincer.
Ah ouais, mais tu vas quand même me questionner là-dessus. Mais la vraie question du coup que moi je pose à nos dirigeants et aux leaders en général, c'est bah, d'après vous, c'est quoi le bénéfice que vous pourriez tirer si vous alliez vers vos collaborateurs et leur demander tout simplement bah, comment je peux t'aider là, qu'est-ce qui se passerait d'après vous. Et puis, on parle beaucoup d'une notion qui a été développée par une entreprise en France, ça s'appelle la symétrie des attentions. Si vous faites ça avec vos collaborateurs, d'après vous, qu'est-ce qui va se passer quand ils vont aller vers leurs clients? Est-ce qu'ils vont leur demander ce qu'ils veulent ou est-ce qu'ils vont leur demander comment ils peuvent les aider? Ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Est-ce quel produit vous voulez et qu'est-ce que vous attendez de moi? C'est pas la même chose. Voilà.
Carrément.
Donc, trois dimensions, servant, visionnaire et inspirant. Voilà.
Ouais, servant. Est-ce que finalement le manager dont tu parlais tout à l'heure, et je fais exprès, j'emploie le terme à nouveau, le manager dont tu parlais tout à l'heure, celui que tu as entendu là dans une grande enseigne il n'y a pas très longtemps qui t'a dit que lui ça ne l'intéressait pas, est-ce que si tout d'un coup on lui apprend la posture du servant leader, est-ce que ça pourrait lui permettre de voir son métier différemment? Est-ce que ça pourrait ouvrir des portes, susciter des vocations? Qu'est-ce que tu en penses?
Alors, ce que je pense, c'est que aujourd'hui, on identifie qu'il y a un début, voire une vraie forme de souffrance. Et là, récemment, j'ai eu l'occasion de travailler dans des milieux comme les milieux médicaux. Et alors là, c'est complètement avéré. Hein. C'est-à-dire qu'ils cherchent des solutions pour que leur encadrement se sente mieux et soit plus efficace aussi, surtout. Et donc, je suis convaincu que si on amène une vision qui est plus centrée sur le capital humain, comme je le disais tout à l'heure, c'est-à-dire on va dire aux gens qui vont avoir des responsabilités, donc les leaders, bah, ton boulot, ça va être d'orienter les personnes et ça va être de les développer, donc de les accompagner. Je pense que si on leur dit clairement que c'est ça le job et pas uniquement, j'insiste sur le « uniquement » parce qu'il ne faut pas l'oublier, il va les avoir, mais pas uniquement du KPI, du budget, des tableaux à remplir et des choses. Et je ne dis pas qu'il faut gommer les dimensions administratives. Je dis juste que, voilà, on ne les embauche pas pour ça, ces gens-là. On les embauche pour qu'ils leadent une équipe. Et moi, les années où je me suis le plus éclaté, je vais être totalement transparent, c'est les années où, en fait, tout le protocole procédurier administratif était déjà en place. J'ai souvenir d'avoir passé une année sur un magasin avec une équipe géniale, je pense qu'ils se reconnaîtront, j'étais dans le domaine du disque, et en fait, je suis arrivé, mon prédécesseur avait quasiment tout mis en place, moi j'ai eu juste quelques petits trucs à ajuster, mais je suis arrivé, mon boulot c'était de les développer, de les aider, de continuer bien entendu à faire vivre le business, mais on était surtout concentré, moi j'étais surtout concentré sur les bonhommes, sur ce qu'ils avaient envie de faire, sur où est-ce qu'on allait. Et derrière, moi, j'ai eu l'opportunité de bouger, mais j'ai, dans ma tête, je voulais rester 2 ans ou 3 ans à ce poste-là, mais je m'étais dit 2 ans minimum. Et j'ai gardé des contacts un petit peu avec eux après parce que je voulais savoir où est-ce qu'ils allaient. Voilà, j'avais engagé des trucs avec eux sur la première année. Quand on m'a dit, bah voilà, t'as une opportunité, j'ai, sincèrement, intérieurement, je me suis dit, mince, mais comment je vais faire pour finir mon plan pour l'équipe, quoi. Voilà. Et j'ai essayé de passer le maximum de messages derrière. Mais si on aide les personnes à travailler sur, de cette manière-là, et donc on leur donne des outils, des clés pour pouvoir justement être au service, visionnaire et inspirant, ben, ça se passera différent.
D'accord. Bon, même si je vais venir te chercher sur le sujet de ta belle histoire de management, et je t'attends en tournant sur ça. Si en quelques mots, là, tu as 30 secondes pour convaincre, c'est un challenge un peu sympa, je devais te dire, tiens, Vincent, pour ceux qui nous écoutent, tu as quelques mots, tu as quelques instants pour... convaincre des jeunes ou des moins jeunes, mais allez, on va dire des jeunes 18-25 ans, pour leur dire combien le métier, alors non pas de manager, mais de leader, accompagnateur, combien ce métier est passionnant et ils peuvent s'y retrouver, si tant est que ça corresponde à leurs attentes. Tu as quelques mots là à leur lancer, ouais. Ils t'écoutent, ils sont 1000 devant toi. et voilà, tu as quelques secondes pour convaincre, tu leur dirais quoi?
Que moi j'ai la sensation que ce métier de leader accompagnateur, c'est un métier de partage où les personnes qui aiment les autres, qui aiment partager avec les autres, vont vraiment pouvoir s'épanouir. C'est aussi un métier où en fait il y a beaucoup de choses à organiser, il y a beaucoup de choses à penser, on a la possibilité d'exprimer ses idées, de convaincre des gens. C'est un métier aussi où il faut être capable d'imaginer, de projeter les choses. Et donc ça, c'est très intéressant aussi. Et puis, c'est un métier où on a le droit de tout simplement s'amuser, de relever des challenges. Donc pour toutes ces raisons, demain, bien équipé, je peux me faire plaisir au quotidien. Alors attention, il y a des journées où on rentre à la maison épuisé. Et puis, moi, ce qui me plaît le plus, c'est rentrer à la maison épuisé en me disant « on a fait le job », pas « j'ai fait le job », c'est « on a fait le job » avec l'équipe. Et c'est ça le métier de leader accompagnateur, c'est de se dire « j'étais là pour eux, ils étaient là pour nous, on était là pour les clients, génial, je suis très content ».
Ça me va bien, j'achète. J'ai un petit peu plus de 24 ans, mais j'achète l'idée. Allez, c'est le moment, ta plus belle histoire de management à toi, Vincent, en quelques mots, raconte.
Alors j'ai hésité. Ouais, j'ai hésité, mais j'en ai trouvé une. Alors peut-être qu'il se reconnaîtra aussi, mais c'est justement pour évoquer un peu les trois dimensions qu'il y a eu avant. Donc j'ai le souvenir d'un entretien avec une personne qui n'était pas encore membre de mon équipe. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que pendant l'entretien, bah nous, on a fait notre job avec mon adjoint. Alors, mon adjoint était en formation, puisqu'il apprenait avec moi à recruter. Donc, on s'était mis d'accord sur nos rôles, on avait préparé les choses, etc. Donc, voilà, ça, c'est le côté un peu, je me mets à ton service et j'essaie de t'inspirer. Puis, on mène l'entretien et ça se passe pas très bien. Pour autant, moi, j'entends le garçon et surtout, ça va paraître bête, mais je sens quelque chose et j'ai une vision pour ce jeune homme. Voilà, je me dis, lui, il faut qu'il vienne bosser avec nous, il y a un truc. Mais là, il ne sait pas le dire, il ne sait pas le vendre.
Mais qu'est-ce qui se passe pas bien, désolé.
En fait, dès qu'on lui pose une question, que ce soit moi ou mon adjoint, alors on n'avait pas fait gentil cop, bad cop, hein, on avait fait des mecs normaux, parce que moi, mes entretiens, ça se passait comme ça, j'essayais juste d'avoir une discussion avec mon interlocuteur. Et là, il n'arrivait pas, le pauvre, on sentait qu'il était bloqué. Et je me suis dit, ok, ça, ce que je vais te dire là, ça a pris, dans mon esprit, à l'époque, ça a pris 1 minute et demie. C'est-à-dire le temps qu'on finisse l'entretien. Je me suis dit, ok, soit je le laisse partir comme ça, je lui ruine sa vie parce que là, il vient de comprendre qu'il est passé à côté du truc, il le sait, je le vois sur lui, il sait qu'il a raté son entretien. Soit je lui offre un cadeau. Je veux qu'il comprenne qu'un leader, c'est quelqu'un qui va être capable de faire différemment. Donc là, je vais l'inspirer. Moi, je voyais où on pouvait l'amener parce que j'avais perçu un petit peu de potentiel, mais je ne pouvais pas lui dire parce que c'était trop tôt. On était qu'au deuxième stade de la démarche de recrutement. Ouais. En revanche, j'ai compris un truc, c'est que si je ne me mettais pas à son service, il n'allait pas être capable de s'exprimer. Et donc, on est sorti de mon bureau. Je me souviens, mon petit bocal. Et puis là, je lui dis, bon, ça va aller, etc. Il me dit, oui. Il me dit, bon, voilà, je comprends bien que j'ai foiré mon entretien. Et moi, je commence à m'appuyer contre le mur, je m'aligne avec lui, je me synchronise, je l'écoute, je fais OK, et j'enchaîne une première question, une deuxième, une troisième, une quatrième. Et je lui refais un entretien de 25 minutes dans le couloir. Et mon adjoint était à côté. Et donc, on termine le truc, il s'en va, je me tourne vers mon adjoint, il me fait « Ah ouais, putain, t'es bon !» Parce qu'en fait, toutes les réponses qu'on n'avait pas réussi à avoir dans le bureau, ben on les avait eues à l'extérieur. Et on s'était pas trompé. Et donc, on l'a recruté, il a grandi dans l'entreprise, on s'était pas trompé, on a réussi à le développer avec ses capacités, à la vitesse, et puis voilà. Et puis derrière, il a eu d'autres projets, aujourd'hui, il a une chouette vie. Mais moi, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est pour moi, c'était vraiment l'exemple, c'est ce truc de... Je suis rentré chez moi déjà ce jour-là en me disant « Ouais, là, j'ai fait mon boulot de leader. Je me suis pas arrêté à cette espèce de truc. J'ai essayé d'être plus malin que ça. » Et puis derrière, bah, ça a été une belle histoire parce que au-delà de cet élément, bah, on a lié des liens. Il a reconnu ça et il me l'a reposé la question. Il m'a redemandé beaucoup plus tard en disant « Mais quand même, pourquoi tu t'as insisté ?» Comment t'as fait pour aller dans le couloir et qu'on ait cet échange-là ? J'ai dit, mais si je le fais pas, je te passe à côté. Et moi, je vois bien que t'as un truc.
Et moi, voilà, c'est mon tour de te taquiner. Ta belle histoire de management, et c'en est une, il n'y a pas de doute. J'ai l'impression qu'on a un peu appris des deux côtés dans cette histoire, en fait. J'ai les mêmes me dire, mais finalement, lequel des deux a le plus appris, quoi, dans le couloir ?
Ben super, et donc ça rejoint bien et on boucle avec ce que je t'ai dit tout à l'heure, on peut tous être le leader de quelqu'un, c'est-à-dire que ce jeune homme en étant devant moi, en étant bloqué à nous répondre dans notre bureau, moi il m'a interpellé, et là il était en train de me montrer une voie, c'était celle de la façon dont tu m'interroges ne me convient pas, et ça veut pas dire que j'ai pas envie de bosser avec toi, c'est juste je n'arrive pas à te répondre, et donc moi leader, à l'écoute, je me suis dit ben, je peux pas, je dois pas continuer comme ça, donc on a mis fin au truc, et j'ai tenté quelque chose derrière. Mais si lui ne me montre pas ça, bah écoute, on finit l'entretien, il rentre chez lui, moi chez moi, on a perdu du temps, on est déçu, et voilà. Donc, tu vois, dans cette logique dont on peut toujours inspirer, on peut toujours être le leader de quelqu'un, c'était vachement intéressant. Donc oui, moi j'ai beaucoup appris aussi ce jour-là.
Ça, c'est une belle histoire de management, d'autant que quand on peut entendre parfois encore circuler les idées nauséabondes de... Qui voudrait nous laisser croire que mener un entretien, c'est encore mettre le candidat en difficulté pour voir comment il va réagir en situation difficile ou en situation d'opposition. Bref, là, on est bien à l'âge de pierre. Je ne sais même pas si c'est les années 70, 80 ou 19e siècle ou avant encore. Mais en tout cas, ouais, c'est une belle histoire. C'est une histoire de remise en question. C'est une histoire d'écoute. C'est une histoire d'adaptation. C'est une histoire de communication, donc chapeau. Je suis pas très étonné, connaissant un petit peu l'animal, mais c'est chouette. Et il nous reste allez quelques secondes, Vincent, pour que traditionnellement tu nous donnes ton mot de la fin. Alors on t'écoute. Ouais.
Bah, voilà, moi vous avez compris ma croyance, mais je la repartage avec vous aujourd'hui, et moi c'est quelque chose sur lequel je travaille et où je veux accompagner aussi les gens là-dessus, c'est je pense qu'il faut arrêter, encore une fois, de parler de management aux personnes en poste ou à ces jeunes générations, et à l'inverse, il faut leur donner la vision, leur expliquer que bah, c'est eux qui ont les clés, et que comme ils ont les clés, bah, on peut les aider à être un LIDAC, on peut les aider à être un leader accompagnateur, et donc c'est à nous qui avons soit de l'expertise, soit de l'expérience, soit aux dirigeants qui avons les responsabilités, de les accompagner pour le devenir, et c'est ce que je vous invite à faire, parce que je suis sincèrement convaincu que ça satisfera aussi bien les managers que les employés, qui verront des managers débarquer avec des intentions et des comportements beaucoup plus constructifs et beaucoup plus engageantes, et puis n'oublions pas qu'on est là pour faire du business, parce que je veux aussi qu'on ait ça en tête, et des collaborateurs heureux, ben en général, c'est ce qu'on dit, ça amène des clients heureux. Donc, si on lead bien notre équipe, ben on le sait derrière, ça a un impact fort sur nos clients. Et aujourd'hui, quand on parle d'expérience client, de fidélisation, d'enchantement, ben pour moi, ce qu'on évoque là, c'est aussi des facteurs de réussite sur ces domaines-là. Donc, voilà, je vous invite vraiment à penser autrement.
Eh ben, si ça, c'était pas riche, dense, avec du contenu, des références et des convictions, c'est que je m'y connais pas. Donc, Vincent, un grand, grand, grand merci. Et puis, au plaisir de te croiser bientôt, pourquoi pas pour pour de prochaines aventures. Merci pour tout ce que tu as porté à notre connaissance et c'était passionnant. Et j'espère que ce sera aussi passionnant pour ceux qui nous écoutent ou qui nous ont écoutés et qui nous écouteront. Donc, Vincent, un grand merci et je te dis à bientôt.
Merci beaucoup Boris, à bientôt.
Ciao. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cet épisode. Je vous invite à réagir en partageant, en commentant ce podcast. À bientôt.